Alors tu veux faire danseur?
And push and turn and people down.
Qu'est-ce que ça te fait au juste lorsque tu danses?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, préciser?
Je suis heureuse et fière de faire partie de l'affiche de ce spectacle.
Transmettre au millimètre près les mouvements.
J'ai fait de la danse dans mon jeune temps.
Ça suffit, on se tourne vers le miroir, allez!
Et bienvenue une nouvelle fois à Manche sur votre émission hebdomadaire de la danse à Montpellier, où nous explorons des concepts et des idées, et surtout ces mouvements qui nous font tellement rêver. Aujourd'hui, dans toujours cette idée de chercher les structures ailleurs, aujourd'hui on a ramené une invitée très spéciale avec laquelle on va se régaler. Bonjour Laetitia.
Bonjour.
Je te demanderai juste de partager avec des auditeurs une petite phrase de ce qui tu es.
Je suis Laetitia Doat et je suis résolument une danseuse.
Très bien, merci beaucoup. Et donc aujourd'hui, on reçoit Laetitia pour lui poser beaucoup de questions sur son approche à la danse. Et est-ce que tu crois qu'on peut trouver le bonheur par la danse?
Plutôt que le bonheur, j'aurais envie de dire qu'on peut assurément trouver la joie par la danse.
Okay.
Parce qu'en fait, la joie arrive par une qualité de présence au monde et en éveillant sa conscience du geste, on est obligé d'être présent à soi. Et la présence à soi en mouvement amène la joie, tout simplement. Donc oui.
Donc oui, mais
assurément.
Mais avec cette explication plus précise sur le terme joie, non?
Oui, parce que pour moi, la joie est vraiment liée à la fugacité de l'instant. Et la danse est cet art de l'évanescence. Bonheur est un concept que j'ai assez peu maturé. Mmh. Et pour moi, la différence que je pourrais faire entre bonheur et joie, le bonheur est plus un état de constance, alors que la joie est plus impermanente. Et pour moi, la danse est cet art de l'impermanence.
L'impermanence. Ok, oui. Je comprends, je vois. Et tu m'as parlé de la notion des danses, non? Quelle était ton approche par rapport à la notion des danses et du champ chorégraphique?
Quand je dis que je suis résolument danseuse, je vais dire qu'aujourd'hui, à l'âge que j'ai, c'est-à-dire 43 ans, je souhaite inscrire mon quotidien, ma vie routinière, dans une conscience d'être au monde que j'ai découvert en tant que danseuse professionnelle, en tant que faisant partie du champ chorégraphique, en travaillant à la barre, une structure académique, voilà. Et tout le savoir et toute l'expérience que j'ai développé d'un point de vue professionnel aujourd'hui, je souhaite en faire un art de vivre. Et c'est beaucoup plus difficile d'être présent à soi et au monde 24 heures sur 24, avec les factures et les klaxons et l'enfant qui nous demande le goûter, plutôt que lorsqu'on est sur scène, sous les projecteurs, et qu'on n'a que à être avec son art.
Donc il y a une rencontre entre l'art et la vie qui s'est entrechoque plus constamment que...
J'irais même plus loin, je dirais que j'ai quitté le domaine de l'art pour entrer dans le monde réel. L'art était pour moi une manière de sublimer la vie.
Oui.
Parce que la vie peut être crue, dure, et l'art est un moyen d'accéder à la transcendance, mais en passant par la sublimation. Et donc, voilà. Souvent, l'art est une dérivation, est une porte de sortie, parce qu'on se refuse le réel. Aujourd'hui, j'ai dépassé cette porte de dérivation.
Dérivation.
Voilà.
Guy Debord. et donc, ça a à voir avec un départ du monde académique, parce que tu étais dans le monde académique et à un moment donné, tu as décidé de déporter ta réflexion et ta pratique au-delà.
Oui, alors moi j'ai un parcours de danseuse-interprète, mais aussi d'universitaire. Donc j'ai cherché en danse, j'ai cherché par le corps, par le cœur évidemment, et avec aussi une acuité intellectuelle. Et j'ai fait ma thèse sur Isadora Duncan. Et Isadora Duncan est déjà une figure du début du XXe siècle qui souhaite casser les cadres, mm-hmm. et qui inscrit le champ de la danse dans une dimension artistique beaucoup plus vaste. Et dans mon parcours professionnel, j'ai eu le bonheur de croiser la danse avec beaucoup d'autres médiums, que ce soit les arts plastiques, la musique, le textile. J'ai travaillé au Louvre, au Centre Pompidou. J'ai eu des terrains d'exploration du geste dans des lieux absolument magnifiques et avec des créateurs et des chercheurs absolument passionnants. Une fois qu'on a fait le tour de ça, ben on avait envie d'aller voir ailleurs.
Donc, parlez-nous un petit peu plus de cette approche, de cette monde moderne de Duncan et de ce qu'on avait parlé un peu de la danse prière. Tu peux nous révéler des choses beaucoup plus prosaïques, prosodiques. Non, beaucoup plus belles qu'avec mes paroles.
Non. Je vais dire que l'art d'Isadora Duncan m'est tombé dessus, comme une grâce nous tombe dessus, dans le sens où je ne m'intéressais pas ni à son personnage. Il y a beaucoup de gens qui sont fascinés par son autobiographie, sa vie révolutionnaire. C'est vraiment une femme pionnière. Moi, ce n'est pas du tout ça qui m'a intéressée. C'était l'étrangeté de son esthétique. On était à la toute fin du XXe siècle, début XXIe, et les corps professionnels en danse, on était dans le champ de la non-danse, un champ très conceptuel, mental, avec des corps de la déconstruction. Quand ces corps-là se frottait à l'esthétique d'Isadora Duncan, donc d'un siècle plus tôt, ces corps qui étaient si véloces devenaient malhabiles. Et moi, en voyant cette étrangeté du geste perdu en un siècle, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? La danse d'Isadora Duncan a l'air si naturelle, si libre, on pourrait dire si facile. Et des danseurs aguerris, passés par la plus grande école comme l'Opéra de Paris, ne sont pas en capacité de faire un simple geste. Donc c'est cette notion d'épure qui m'a profondément alertée et qui m'a plongée dans une recherche qui a duré une quinzaine d'années.
Et qui est absolument importante parce que c'est une, comme tu le disais en dehors du microphone, c'est une connexion qu'on perd, non, souvent quand on est un peu dans le monde trop mental ou trop technique, et que...
Oui, alors, Isadora Duncan fait partie de ces danseurs modernes qui ont une construction du corps qui est un corps global qui relie vraiment le centre à la périphérie, le modèle de l'étoile de mer, voilà, de comment je relie le nombril aux extrémités du doigt et du pied. Et tout bon danseur a cette coordination centre-périphérie qui est un acquis, mais je dirais que toutes les esthétiques ne mettent pas l'accent là-dessus. Et toutes les techniques de corps aussi, même si elles présupposent ça comme un fondamental, peuvent à un certain moment proposer, dans un souci de technicité, comme une science qu'on va venir... découper, analyser, décortiquer, on va perdre en fait cette organisation motrice structurelle pour s'attacher au segment qui est nécessaire et qui renvoie à un geste critique mental, mais qui n'est plus le geste du vivant.
Du vivant, parce que tu opposais un peu les corps modernes aux corps post-modernes. Alors, quand tu avais dit de non hiérarchiser encore le corps post-moderne, j'allais dire.
Oui, tout comme l'espace pouvait être non hiérarchisé sur un plateau avec Merce Cunningham, où chaque danseur pouvait être un centre et non pas le centre du plateau comme
l'habit qui tient.
Voilà, et la notion d'hiérarchie était remise en cause dans la deuxième moitié du XXe siècle. On a pu, dans nos sociétés occidentales, s'intéresser au mouvement où le coude, la hanche, l'épaule pouvaient être pris comme un moteur du mouvement et pouvaient devenir un centre. Moi, j'ai été éduquée par ce décentrement, en fait.
Oui.
C'était ma culture de base. Donc, venant de cette déconstruction postmoderne comme un terreau qui a sous-tendu ma propre formation, j'avais besoin de retrouver ce qui pouvait être un gros mot à l'époque, mais qui est une des racines du début du XXe siècle pour les danseurs modernes allemands ou américains, qui est qu'est-ce que c'est qu'un corps harmonieux.
Harmonieux.
Et harmonieux en art contemporain, c'est presque un gros mot.
Oui, c'est presque un insulte. Laetitia, aujourd'hui, nous a ramené un peu de musique. Il est hongrois ? Non, je ne sais plus. Je n'ai pas cherché, mes chers auditeurs, c'est ma faute. Mais c'est un compositeur que vous allez entendre dans 2, 3... avec cette douceur qui nous fait rentrer dans cette transcendance dont vous parliez tout à l'heure. On voyait, je voyais ici Laetitia qui activait son corps, qui essayait de retrouver, je ne sais pas, sa musculature peut-être. Nous revenons aujourd'hui avec Laetitia Doat, une résolument danseuse qui nous accompagne aujourd'hui pour nous parler de sa vision, de son début avec la danse, mais aussi de toutes ces particularités que, à partir de son ex-métier et plus sa nouvelle vie, va nous partager pendant cette petite demi-heure. Et donc on est en train de parler un peu dans l'opposition, si on pouvait opposer les corps modernes et les corps post-modernes, un corps moderne en étant quelque chose de harmonieux où on cherche quelque chose de centre à la périphérie, tandis que le corps hiérarchique et le corps post-moderne, ça serait quelque chose qui est segmenté, qui est une architecture segmentée et qui a une hiérarchie un peu annulée.
Oui, alors je ne serais pas aussi binaire, mais c'est vrai que l'histoire de l'art se construit et s'invente et s'écrit par effet de rupture. Néanmoins, dans ce corps qui vise l'harmonie, le beau, le bon, il y a assurément une reliance au divin, quelque chose qui connecte le ciel et la terre, qui fait vraiment partie de ces danseurs modernes du début du XXe siècle. Et après la Deuxième Guerre mondiale, le désœuvrement planétaire est là, et on ne peut plus penser l'homme de la même manière.
De la même manière, non, la guerre a créé aussi les théâtres, l'absurde n'est pas pour rien. Oui, j'étais un peu binaire. Et tu nous avais fait part de ta formation et j'oserais poser la question, quels sont les pièges de cette expérience de formation et de toi, de ta façon de vivre la danse dans le quotidien, quels sont les pièges de ça, de répéter des mouvements, des séquences qu'on connaît ou d'inventer des nouvelles?
Justement, c'est de croire qu'on connaît. Pour moi, le piège, c'est le savoir. Et en tant que chercheuse universitaire, comment se détacher du savoir pour accéder à une forme de connaissance depuis la chair? Et en tant que danseur, comment est-ce que notre chair peut être aussi empreinte d'habitus? Je reprends Marcel Mauss, mais c'est vraiment ça, comment les habitus nous pétrissent et font de notre spontanéité en fait un enfermement. Une valeur qui m'est extrêmement chère, c'est la notion de liberté. Et comment être libre si je ne peux pas changer ma manière de m'engager dans le mouvement? Comment est-ce que je peux être libre si ma posture de base, la façon dont je suis debout, n'est pas interrogée chaque jour? Un piège serait de ne pas se poser la question sur comment je me tiens dans ma verticalité et comment je me mets en marche.
La marche, j'allais exactement dire la marche qu'on en avait parlé. C'est comme une sorte de... j'aime bien cette idée que le danseur est un producteur, parce que justement c'est là où se joue cette attention sur ce qui est en train de se passer au moment de l'action, de la production.
Il y a une responsabilité. Il n'y a pas besoin d'être chorégraphe pour être auteur de son geste, n'importe quel interprète. S'il est conscient du fait qu'il soit messager, parce qu'un interprète c'est ça, messager d'une écriture plus grande que lui, il donne sa part, il donne son corps, il donne son cœur, il donne son âme dans cette posture de transmetteur. Donc il est aussi auteur, ou en tout cas co-créateur. Aussi,
c'est ça. Laurence Loup parlait de producteur carrément. Il est aussi producteur et il y a sa responsabilité. Quelle est la place de la transmission pour toi? Sachant que la question est en dehors de l'école, mais vu que tu as pu confronter beaucoup de répertoires, tu as pu lire et connaître beaucoup de choses qui sont écrites, qui sont là.
Tu citais Laurence Loup, qui est une très grande chercheuse en danse, et je me sens vraiment honorée de faire partie de cette lignée de passeurs de danse. C'est une expression qu'elle reprend beaucoup. Je ne fais que passer. La danse est un art éphémère.
Oui, c'est les propres et la nature de ce médium qu'est la danse, qui n'a pas dans les autres. Une partition musicale va nous donner forcément la façon de jouer, non? Peut-être. Mais tandis que dans la danse, il faut absolument... je ne sais pas. Peut-être.
Alors, il y a des arts scripturaires, et moi, je me suis intéressée au système notationnel en danse. Donc, je ne vais pas renier la puissance de la trace et de l'écriture pour faire advenir l'art. Mais il y a dans la danse cette spécificité de l'oralité. Oui. Et pour moi, voilà, comment être une transmission vivante, ça se joue par la danse, mais ça se joue dans le quotidien, dans chaque geste qu'on peut proposer. Et un cuisinier... Ah,
voilà.
Pourrait, j'espère, se retrouver parfaitement dans ce type de conception de ce que peut être la transmission.
La transmission. Tu avais parlé des raptes et des vols quand je t'ai posé la question la dernière fois.
Oui, c'était à propos du mimétisme. En danse, on apprend donc en général en présence d'une figure tutélaire, d'un exemple vivant à côté de soi. Et comme une langue vivante, on apprend par corps, on apprend par mimétisme. Et je parlais de rapt comme une manière de saisir, comme saisir une gestalt, saisir un tout. Non pas saisir une forme, mais comprendre de manière intuitive et instinctive une manière d'être au monde. Et les plus grands danseurs sont des gens qui captent et qui raptent très rapidement, qui sont très caméléons, qui se faufilent dans la peau d'un chorégraphe comme un usurpateur et un voleur d'identité. C'est ça leur habileté, et c'est souvent complètement inconscient. Mais il y a cette intelligence du corps qui passe par une observation qui ne se fait pas qu'avec l'œil, mais qui se fait avec... Une ouverture perceptive globale qui est une ouverture au sensible qu'invite l'art et qui est assez peu usitée dans notre quotidien occidental mécaniste et consumériste.
Un petit pas des danses préférées. Et c'est possible de l'écrire à la radio.
Un petit pas de danse.
Je sais que c'est toujours difficile, mais c'est le défi de...
Ouais. Alors là, juste pour le plaisir, je vais dire Flick Ball Change, juste parce que ça sonne
okay,
comme
c'est
ça.
Quoi?
Mais peu importe, en fait, moi j'ai beaucoup plus d'élan à aimer une qualité de corps ou une modalité dynamique, un phrasé, plutôt qu'une forme, en fait. Et au-delà de la forme d'un pas, ce qui m'a intéressée, c'est comment chaque danseur va venir insuffler sa signature dans une forme commune. Et donc,
Ok, oui.
À travers un pas de bourrée, on a un pas de bourrée baroque et on a un pas de bourrée en jazz, on a un pas de bourrée romantique et on a une triplette cunninghamienne. Donc ça peut créer des esthétiques, mais dans une même esthétique, comment chacun d'entre nous va venir glisser à l'intérieur de cette forme pour l'habiter et la faire sienne. C'est ça qui m'émeut le plus.
Oh. Cette notion de signature, elle est absolument... Moi, je la trouve puissante parce que ça provoque énormément de choses quand on dit il y a une signature que cette personne-là, elle propose. Elle amène, elle fait une expérience qu'avec... Parce que c'est un corps unique. C'est un corps qui a une perception de la gravité, du poids, etc. C'est unique. Et tu m'avais parlé aussi des sautés en vieillesse. Par rapport à...
S'il y avait un geste préféré, en tout cas une action pour moi qui a été une action qui m'a apporté énormément de joie, c'est la joie du rebond. Les danseurs modernes ont investi le rapport à la gravité d'une manière esthétique très particulière, et le saut et la chute... font partie des terrains d'exploration que s'autorisait d'une toute autre manière le ballet romantique. Mmh. Et dans le saut, il y a le rappel de notre incarnation, c'est-à-dire d'être humain soumis à la gravité. Et pour moi, l'enjeu de la danse, qui est un enjeu de reliance à la transcendance, ne peut qu'interroger la figure du sceau comme la figure emblématique qui interroge ce rapport tertiel. Et est-ce que je saute pour m'élever? Est-ce que je saute pour échapper? Est-ce que je saute pour enjamber? Est-ce que je saute pour planter? Est-ce que je saute pour marteler? Est-ce que je saute pour affirmer? C'est jubilatoire.
C'est très jubilatoire, oui. Tu nous avais parlé aussi que être debout, parce qu'on parlait de la marche, être debout était pour toi c'est une question politique pour toi. C'est peut-être comme tu défends pour fermer. C'est imposé la dernière question, ça se pose toute seule.
Oui. Tu parlais de signature et être debout est déjà une signature au monde. Donc avant de se mettre en marche et avant d'agir, vérifions pour chacun d'entre nous quotidiennement comment nous nous mettons debout et comment nous nous élevons. Et on peut être alité et être debout. En aparté, on parlait de la vieillesse et comment vieillir. Par exemple, le saut n'est souvent plus possible avec la vieillesse. Mais néanmoins, il reste l'empreinte du saut dans la mémoire corporelle. Et ça se transmet.
D'accord.
Il y a des très grands pédagogues et danseurs qui parviennent à insuffler le rythme et la joie du saut en restant assis sur leur chaise.
Assis, oui.
Donc, oui, soyons debout en étant assis, en étant alités, mais soyons vivants.
Merci beaucoup Laetitia Doat pour nous avoir accompagnés dans cet épisode de Manches Chaussures. Je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle aventure mouvementée. Je vous souhaite des belles sautillages.
Alors tu veux faire danseur?
And push. And turn and table tap.
Qu'est-ce que ça te fait au juste? Lorsque tu danses.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, préciser?
Je suis heureuse et fière de faire partie de l'affiche de ce spectacle.
Transmettre au millimètre près les mouvements.
J'ai fait de la danse dans mon jeune temps.
Ça suffit, on se tourne vers le miroir, allez!